Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour Un masque et la plume consacré à l'actualité d'entre-deux-tours du cinéma avec Sophie Avon de Sud-Ouest, Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et d'une heure en série tous les samedis à ne pas manquer à 20h sur notre chaîne, Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles et Michel Simon de Positif, Michel qui signe encore un livre aux éditions Carlotta qui réunit les entretiens que Michel a eus avec 6 réalisateurs de légende quand même, Wilder, Huston, Mankiewicz, Polanski, Forman, Wenders, tout ça s'est rassemblé dans ce passeport pour Hollywood qui paraît donc chez Carlotta. On parle ce soir des films de Ryuzuke Hamaguchi, de Gaspard Noé, Fabrice Duvels, Gustave Kerven et Benoît Delépine, Edgy Edwards et Étienne Comard. Dans le courrier de la semaine, il faut le dire, ce sera le seul sujet, Haro sur les critiques du masque, qui n'ont pas su apprécier encore le film de Cédric Clapiche. Je ne cite qu'une partie du courrier très abondant que je reçois chaque jour. Vous êtes trop dur, écrit Teresa. Les scènes de danse sont très bien filmées. L'actrice danseuse est magnifique et l'histoire est belle. Sabine Ermakov, très énervée par les critiques injustes. Quel mépris pour ce cinéaste qui, lui, nous parle de compassion, de bienveillance et de remise en question. Des termes, évidemment, qui doivent être insupportables pour vos invités blasés. Pour Philippe Zénari de Besançon, les critiques du masque ont été d'une méchanceté et d'un manque de sensibilité accablant. Ce film est une merveille. Il est plein d'humanité et de beauté et il fait un bien fou en ces temps difficiles. Même sentiment de Carole d'Annecy encore fait rire et pleurer. On en a besoin. Ce film, ajoute Bernard Tessot de Paris, est un hymne à la jeunesse et à la persévérance. Anna, qui a 12 ans, fidèle du masque. Merci. Je suis choqué par la façon dont vous avez parlé de Encore. Pour une fois qu'un film grand public, nous dit Anna, est consacré à la danse et non pas aux voitures de course, on pourrait se réjouir. Tu as raison, Anna. Carole Dubois, Valmier d'Ajaccio, ce film donne envie de danser, de faire partie d'une troupe, d'oser. Cher masque, dit Gilles Massonneau de Valbonne, tu es passé à côté. Ce film ne parle pas de résilience, mais de guérison. Sophie Olivier de Limoges, qui a pratiqué la danse classique et contemporaine, nous écrit « J'aurais voulu que le film dure 2 heures de plus. » Triste pour vos critiques, qu'il ne soit pas capable d'apprécier la joie et la beauté qui se dégagent de ce film. Pour Michael Moretti de Lyon, un des meilleurs films sur la danse avec un générique époustouflant, procurant une telle énergie qu'en sortant, chacun cherche son entrechat. Bon, il y en a encore plein d'autres. Seul Aude Chrétien de Paris, porte mal son nom, fait de la résistance. Les personnages sont sans profondeur, dialogue sans consistance. Et certains moments ridicules quand on nous assène qu'il faut en chier pour pouvoir prétendre connaître la vie ou la beauté. Seule la danse sort grandie du film. L'actrice danseuse est effectivement surprenante, intéressante, loin des physiques conventionnelles de cinéma. Et elle danse si bien, il s'agit, je le rappelle, de Marion Barbeau, première danseuse du ballet de l'Opéra de Paris. Cette étoile filante qui illumine l'écran, ajoute encore Alexandre Venbeck de Bruxelles. Voilà, je n'ai pas tout lu, mais je pense que vous avez compris qu'ils ont aimé le film et qu'ils n'aiment pas les critiques du Masque et la Plume. Et on commence avec le nouveau film du japonais Ryuzuke Hamaguchi, dont le si beau Drive My Car a reçu, après le prix du scénario à Cannes, l'Oscar du meilleur film étranger. Très différent en apparence sont ses Contes du hasard et autres fantaisies qui ont reçu l'Ours d'argent à Berlin, film à sketch sur les jeux de l'amour et du hasard. Trois histoires que j'ai du mal un peu à résumer, dont Hamaguchi dit qu'il les a conçues comme une expérimentation autour des thèmes de Drive My Car. Ici, une femme raconte à une amie sa rencontre avec un homme sans savoir qu'il est l'ex de celle à qui elle se confie. Une étudiante piège son professeur en lui lisant un texte érotique. Deux femmes s'abordent dans la rue, l'une croyant reconnaître en l'autre la camarade de lycée qu'elle aimait autrefois, ronde amoureuse, très bavarde au sens où on parle beaucoup, très romérienne, une fois de plus, pour ce cinéaste japonais Hamaguchi. Sophie ?
Je trouve ce film magnifique et je dirais même prodigieux au sens le plus strict du terme, c'est-à-dire qu'il relève du prodige. Pour moi, ces trois contes, ces trois petits sortilèges, la façon, la rigueur, la précision, la liberté avec laquelle Hamaguchi déploie ses dramaturgies avec des décrochages comme ça, avec sa façon de flirter avec le hasard, presque l'invraisemblable, l'improbable, et de retomber sur ses pattes, et surtout la confiance qu'il fait dans les mots, reposer sur le pouvoir des mots, je trouve ça absolument extraordinaire. C'est toujours les mots qui ont le dernier mot en quelque sorte, c'est toujours les mots qui décident de tout. Et ce qui est génial, c'est que ça peut ne pas être ses propres mots, ça peut être les mots des autres, ça peut être des mots qu'on a inventés, ça peut être des mots dans lesquels on ne croit pas, ça peut être des mots qui ne disent rien de ce qu'on pense, mais ce sont les mots qui toujours font l'action, font le. Et ça, je trouve que c'est très très beau, notamment dans le deuxième conte où il y a ce texte érotique que lit cette jeune fille pour piéger son professeur. Et finalement, ce qui va piéger, c'est pas ce texte, d'autre chose, on ne peut pas le dire.
Mais il faut pas dire.
Et même le premier, tu
te peut-être. Pour aucune. Hein. Oh non, j'ai pas trop dit.
En tout cas, c'est vrai qu'il y a des décrochages narratifs qui sont extraordinaires et vraiment très 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 précis, très rigoureux. Et le troisième conte, qui pour moi est sans doute le plus beau, où ces femmes réenchantent
le plus trouble aussi, peut-être.
Le plus trouble, mais il y a quand même, ça pourrait paraître artificiel, ça l'est jamais, c'est quelque chose de très beau qui triomphe. Elles se servent des mots pour réinventer leur rencontre, pour improviser un dialogue en quelque sorte.
Hein, qui n'a jamais eu lieu.
Qui n'a jamais eu lieu, mais il ne faut pas le dire, justement.
Oui. Ah bon. Ah bah non, Michel, non.
Je pense que c'est pas Hitchcock. Bon,
c'est pas Hitchcock, on est d'accord. Hitchcock. Mais enfin, peu importe. En l'occurrence, bon, c'est vrai qu'elle réinvente quelque chose, un dialogue, elle joue. Enfin, c'est du théâtre et en même temps, ça donne une force et une beauté. Ça pourrait être artificiel, ça l'est jamais parce que c'est incarné, parce que c'est rigoureux, parce que c'est intelligent, c'est une merveille.
Michel.
Oui, alors, d'abord, je voudrais tout de même faire une petite remarque, c'est Éric Rohmer, qui était le cinéaste du langage, il avait des adversaires qui n'aimaient pas que ses films parlent tout le temps. C'est extraordinaire, le succès de Rohmer à l'étranger, qui est considéré dans tous les pays par les cinéastes comme un classique.
D'ailleurs, Hamaguchi se réclame de lui, hein.
Mais bien sûr.
Ouvertement.
Aung San Suu en Corée, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est vraiment une influence directe. Peut-être plus qu'aucun autre metteur en scène de la nouvelle vague, il a une influence directe sur les créateurs. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je trouve que ce film est consacre définitivement à Hamaguchi. On avait vu des films de lui déjà à Cannes, on l'a vu surtout Drive My Car, qui a eu l'Oscar du meilleur film étranger. Mais je trouve que la construction de ce film, avec cette première épisode qui est très classique, qui est un peu la théorie de René Girard sur l'amour triangulaire, c'est-à-dire qu'on aime finalement à travers le regard de l'autre, cette femme qui s'est séparée d'un homme, quand elle apprend que cette femme qu'elle rencontre est avec cet homme, ça l'émoustille, elle a envie de retourner voir cet homme. Ensuite, le deuxième épisode qui est au contraire érotique, magnifiquement érotique, et puis le troisième qui est lumineux. Je trouve que cette rencontre reconstituée qui n'a jamais existé, c'est vraiment la confirmation d'un très grand cinéaste.
Avec un très bel entretien avec Hamaguchi que publie Positif, qui fait sa une sur ses comptes. Jean-Marc.
Oui, moi aussi je me disais que si le cinéma mondial était un tournoi sportif, il serait vraiment le champion mondial. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il est le meilleur, le plus grand, et qu'il a prouvé en deux coups. Un premier dans une forme extrêmement ample et impressionnante qui était Drive My Car, et là dans une miniature qui est tout aussi impressionnante. Et le film est vraiment éblouissant. Tu disais que chaque histoire était complexe à raconter, mais ce qu'elles composent ensemble est encore plus mystérieux. C'est-à-dire qu'on arrive à suivre chaque histoire, mais ce qu'elles se disent entre elles, on voit bien que ça parle de masque, de manipulation, qu'une sorte de jeu de rôle se met en place. Mais au fond, c'est l'opposé de Rohmer sur un point, c'est que Rohmer, il y a une espèce de logique, de théorème, de limpidité absolue, alors que là, on serait bien en peine de résumer ça par un proverbe. On ne sait pas au fond ce que ça dit. Ce que ça dit, c'est très très mystérieux. Et ce qui m'impressionne aussi beaucoup, c'est la façon dont il réussit à déplier des mondes à partir de presque rien. Et par exemple, il y a un escalator. C'est pas grand-chose, un escalator, et c'est aussi beau dans le film que la DeLorean de Retour vers le futur. C'est-à-dire que c'est vraiment investi dans le pouvoir magique et de capacité à remonter le temps qui est stupéfiant. Et puis toujours sur Rohmer, parce que c'est évident qu'il s'inspire de Rohmer, mais je pense que c'est pas, il y a pas que Rohmer, et moi j'ai aussi pensé à Eustache par la puissance de crudité du langage. C'est-à-dire que c'est vraiment des mots qui viennent de la chair, notamment il y a une scène de lecture d'un texte érotique qui est aussi, c'est aussi beau qu'une sale histoire de Jean Eustache. Il y a une puissance vraiment d'incarnation du mot qui est sidérant dans le film.
Et puis aucun de vous ne le dit, mais les comédiennes sont troublantes et magnifiques. Xavier,
la question de Romère, elle est intéressante parce que je l'avais posée à Koji Fukuda, qui est un autre réalisateur japonais dont on connaît Harmonium par exemple. Et je lui avais dit, pour nous, c'est un... évidemment Romère, c'est une évidence parce que la beauté de la langue, des comédiennes, l'incarnation, elle tombe sous le sens. Et pour vous, auteur japonais, qu'est-ce qui vous intéresse? Et il m'avait dit, il y a une logique imparable dans la mise en scène. C'est-à-dire que même si on ne comprend pas les mots, même si on ne suit que les sous-titres, il y a à travers la mise en scène et le découpage de Romère quelque chose effectivement d'une logique implacable. Ça ne peut pas être une autre articulation, une autre possibilité, une autre manipulation de l'image. Et pour nous, ça nous stupéfait parce qu'effectivement la mise en scène, elle est absolument mais imparable. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce à quoi répond ce film qui a eu le prix de la mise en scène quand même à Berlin, et ça n'est pas rien. C'est-à-dire qu'il y a une découpe de l'espace autour du mot, comme on l'a très très bien parlé Sophie, qui est remarquable, qui est vraiment pas du tout dû au hasard, qui est une espèce de musique d'articulation harmonique d'une logique implacable, formidablement passionnante et qui crée constamment de la tension. Effectivement, même sur des escalators, ça devient un moment un peu magique, un peu étrange. D'ailleurs, le premier sketch s'appelle Magie. Et je suis entièrement d'accord avec Jean-Marc. J'ai essayé en revoyant de percer le mystère de ces histoires qui sont effectivement troublantes, pleines de doutes, pleines d'ambiguïté. Il y a quand même des petits éléments récurrents qui circulent dans les trois histoires. Il y a toujours une histoire de rôle. Par exemple, on pourrait peut-être jouer à quelqu'un que l'on n'est pas nécessairement. Il y a toujours cette idée de vengeance, ou de revanche en tout cas, qui pourrait aussi un tout petit peu induire la troisième partie. Et en tout cas, c'est absolument remarquable. C'est tout ce que le cinéma doit être. Un texte magnifique, une incarnation d'actrices et d'acteurs remarquables et une mise en scène au cordeau, mais qui a cette élégance sublime de se faire oublier.
Conte du hasard et autres fantaisies que tout le masque vous conseille évidemment d'aller voir, signé de Ryusuke Hamaguchi. Et un film tout à fait différent, c'est Sous l'aile des anges de Eiji Edwards, produit par Terrence Malick, qui a mis quand même beaucoup de temps à sortir puisqu'il date de 2014. Il raconte l'enfance rurale du futur et 16e président des États-Unis, Abraham Lincoln, dont les parents sont incarnés par Jason Clarke et Britt Merling, la seconde femme de son père après la mort de la première, étant jouée par Diane Kruger, un film en noir et blanc, situé dans les années 1817-19, qui montre à l'américaine comment un enfant d'origine modeste est promis à devenir un chef d'État. Visuellement, c'est très beau, avec des immenses ciels à la Terrence Malick, justement. Qu'en pensez-vous, Xavier?
Déjà, j'aime pas Malick, alors tu penses bien que l'imitateur de Malick... Enfin, est-ce que c'est vraiment un imitateur? On a l'impression que Malick l'a fait sous un pseudo. C'est exactement...
C'est son chef-op, je crois.
Ouais, c'est du mimétisme.
Monteur.
C'est de la mise en scène pendulaire, comme Malick le fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est accroché...
Pendulaire,
absolument. C'est-à-dire que tu mets une caméra sur une balançoire, et puis tu balances la balançoire, et puis voilà, comme ça elle capte des images. Alors on passe de la terre, la valeur évidemment du travail.
Mais de belles images, non?
De belles images. Enfin, on passe de la terre au ciel constamment pour nous rappeler que Dieu est à l'origine de tout.
Bah oui.
J'en ai rien à foutre. On dirait une pute, je suis désolé pour les lessives, parce qu'il y a toujours des femmes qui se cachent derrière les draps qu'elles viennent de laver. Comme
si c'était la pamoison. Il n'y a pas de pub pour la lessive en noir et blanc, c'est pas vrai.
Comme si c'était la pamoison des épouses, effectivement, de faire la lessive et mettre des enfants au monde, pardon. Mais alors l'enfance du petit Abraham Lincoln que son père a empêché de lire, là, il a mis au travail avec cette espèce de valorisation de la virilité. Il y a toute une scène où il lui apprend à se battre avec une musique bien lyrique derrière, et au moment où le père lui dit ça y est, tu sais enfin te battre, c'est formidable. Là aussi, il y a une explosion musicale derrière qui surligne tout. Et puis, au secours, la naissance de la conscience politique de Lincoln. Un jour où il est assis sur une branche d'arbre, il voit une colonne d'esclaves noirs, et ça va peut-être expliquer pourquoi quelques années plus tard, il va abroger l'esclavagisme, alors qu'on sait que c'est des raisons totalement autres que l'humanisme ou l'altruisme. Non, pardon, mais c'est vraiment, mais il y a un court-métrage et c'est interminable, il n'y a pas un plan fixe, prenez un sac à papier pour vomir parce qu'il y a des moments...
Oh,
c'est insoutenable,
Xavier.
Non mais c'est du remplissage, c'est même pas de la mise en scène, il n'y a aucun point de vue, pardon, mais non quoi.
Michel?
Non, je trouve ce film très beau. Évidemment, il est sous l'influence de Malick, comme le film japonais est sous l'influence de Romère. Mais si on est influencé par Bresson, par Godard, par Romère, il y a du respect en France. Si c'est Terrence Malick qui ne parle pas de la misère du monde, évidemment, c'est un cinéaste complètement intemporel par rapport au goût d'aujourd'hui. Il n'est pas déprimé devant le monde, il exalte le monde. C'est un chant... C'est comme Claudel ou comme Giono, il y a une sorte de panthéisme, de sens extraordinaire de la nature.
Mais ça, Xavier ne peut pas comprendre ça.
Non.
Et on trouve dans ce film justement, l'absence totale. Bon, il y a ce moment où il voit des esclaves qui passent, mais c'est tout. Ce qui est magnifique, c'est pas du tout le genre de film où on dit « Attention, vous allez devenir un grand homme ». Pas du tout. C'est l'histoire d'un garçon de 10 ans et on ne saurait pas qu'il est Lincoln. C'est pas du tout important.
Bah si, puisqu'on nous le
dit. Non, c'est de peindre la vie d'un enfant et comment, comme chez les anciens, comme chez les Romains, de montrer comment le contact avec la nature est une formation importante. On le trouve chez Ovide, on le trouve chez beaucoup de poètes latins. Et il y a ce panthéisme que je trouve absolument bouleversant, comme j'ai trouvé bouleversant les films de Terrence Malick.
Jean-Marc.
Oui, c'est pas tout à fait vrai ce que dit Michel. Malgré tout, le film vise à montrer en quoi Abraham Lincoln était génial depuis le début. C'est-à-dire qu'il y a des voix off qui disent comment c'était un enfant qui était plus malin que les autres, qu'il avait une manière de voir.
Donc,
c'est quand même la naissance de la figure du grand homme.
Et Jeanne d'Arc, elle entendait des voix. Hein, donc,
oui, voilà, mais c'est ça. Il y a des voix off sans arrêt. Il y a vraiment quelque chose de Saint-Sulpicien.
Elle a moins bien filmé.
Mais chez nous, c'est Jeanne d'Arc. Bon, d'accord, chacun a ses mythes.
Et je trouve qu'il y a une sorte de kitsch sulpicien, de kitsch chic, parce que c'est en noir et blanc, mais malgré tout c'est très kitsch. Après je serais pas non plus aussi sévère que Xavier, parce que le film a d'indéniables qualités de fabrication, c'est quand même effectivement très virtuose sur la manière d'enchaîner des images, mais je trouve que ce que ça dit de Lincoln, ce que ça dit de ces figures angéliques, de mère puis de belle-mère, je trouve ça pas très intéressant, et c'est vraiment une esthétique sulpicienne.
Sophie.
Je trouve le film très beau, ça me gêne pas du tout qu'il soit une copie et éventuellement conforme de Malick, c'est son monteur, et en effet c'est son premier film, il a un maître, c'est Malick, et pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a un côté Saint-Sulpicien comme ça, c'est vrai, mais ça n'empêche pas que le film soit beau. Alors on est sur des motifs attendus, hein, avec l'Amérique des pionniers, avec ce noir et blanc sur une nature qui est à la fois lumineuse et en même temps ouatée comme ça par une sorte d'élégie gazeuse. Il y a la mort du père, la sévérité du père, l'âpreté de la vie de l'époque. Enfin, toutes sortes de motifs comme ça qui sont quand même des motifs éminemment cinématographiques et qui sont traités évidemment à la manière de Malick, mais moi c'est le Malick que j'aime pas tous les films de Malick, mais c'est le Malick que j'aime, c'est-à-dire que ça rentre par capillarité en quelque sorte, enfin c'est un cinéma de sensation avant tout quand même, c'est un cinéma de murmure, de j'aime ce côté charnel, sensuel du film qui je trouve est une, moi ça m'aurait pas intéressé d'avoir un angle d'attaque historique ou politique, je préfère avoir ça. Et franchement, le fait qu'il y ait une, oui, il voit des noirs et des esclaves, et ça veut pas forcément dire que, enfin, on peut aussi imaginer que c'est une scène.
Je suis désolé, Sophie, ne sois pas aussi naïve. Le cinéma, c'est quand même un temps de réflexion.
Oui, mais
il met la scène au milieu, comme par hasard.
C'est une scène minuscule.
Pardon, mais c'est pas un hasard. Les noirs, ils passaient pas par là dans le cadre. Il a décidé de les tourner.
Certes, mais c'est une scène minuscule parmi.
C'est bien ça le problème.
Donc, oui, mais pourquoi un film sur la beauté du monde serait éliminé par rapport au film sur la misère ou
mais
la
laideur du monde ?
Mais
tu élimines la moitié du film, du Michel, en refusant de voir que c'est une biographie préliminaire de ce que va devenir Lincoln plus tard. C'est toi qui fais du pardon,
bah, en même temps, il peut pas faire un film sur quelqu'un qui va pas devenir Lincoln, puisque c'est Lincoln. Donc, je veux dire, c'est assez logique qu'il fasse. C'est une enfance rêvée de Lincoln, voire fantasmée de Lincoln.
Lincoln, bon, comme
c'est quoi. Normal aussi qu'il y ait des éléments qui rappellent la vie de Lincoln, Xavier. Tu vois, c'est normal quand même.
Sous l'aile des anges, vous n'êtes pas des anges, mais sous l'aile des anges, c'est le titre du film de G. Edwards. En même temps, non, c'est un titre, un titre de film. En même temps, le nouveau film des compères Gustave Kervern et Benoît Delépine, vous savez, Mammouth, effacé l'historique, avec Jonathan Cohen, dans le rôle d'un maire de droite, bien macho. C'est pas un engagement, hein, bien ripou, qui essaye de convaincre un maire écolo bien naïf, c'est Vincent Macaigne, de construire un parc de loisirs sur le site d'une forêt primaire et protégée, évidemment. Et après une soirée bien arrosée dans un bar à filles qui s'appelle le FMI, les deux mecs se retrouvent au lit avec India Air, une activiste féministe qui va très vite, hein, avant l'instant crucial, qui va les souder à la colle forte. Au cri de « fuck le patriarcat ». Et pendant tout le film, les deux zigotos vont être, pour le pire et non le meilleur, vont être inséparables, surtout vu la position que l'un a par rapport à l'autre. Donc ils sont grotesques, en fait. Et même le vétérinaire, qui est joué par Thomas VDB, n'arrive pas à les détacher. En même temps... Jean-Marc.
Alors, j'ai vraiment un point de vue très « en même temps » sur le film. C'est-à-dire que pour une part, je trouve le film assez réussi pour ce qu'il veut être, assez drôle, assez bien dialogué, extrêmement bien interprété, et en même temps, je trouve que si on prend le film sur ce qu'il devrait être, c'est-à-dire un film qui radiographie l'état politique de la France, je le trouve assez faible. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un humour de chansonnier dans le film qui passe à côté de la France d'aujourd'hui, une vision de la gauche écolo et de la droite post-Sarkozy qui irait jusqu'au centrisme de Macron, qui, entre ces deux tours électoraux, semble vraiment pas le bon objet. Et si on le compare au film de Guy Roddy, qui est aussi une farce, qui aussi essaie de parler de l'imaginaire politique de la France aujourd'hui, bah Guy Roddy, il est vraiment en plein dans le mille. Et de Lépine et Carverne, aussi habile soit-il pour faire des farces, et le film est amusant.
Il est surtout amusant dans une première partie. Après,
ça s'étire un peu, mais
ça devient un peu systématique.
Pour moi, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il tape pas juste.
Sophie.
Oui, c'est-à-dire depuis deux, trois films, je trouve qu'ils sont un petit peu insuffisants, de Lépine et Carvel. Moi, j'avais déjà pas beaucoup aimé.
Effacer l'historique, il y avait plus d'idées.
Les premiers avaient un charme fou, ils étaient bricolos, ça avait du charme. Là, je trouve qu'ils sont paresseux, il y a une bonne idée au départ. Et sur cette bonne idée, ils s'en remettent vraiment beaucoup, beaucoup et un peu trop au seul talent des acteurs qui sont formidables. Vincent McCain comme Jonathan Cohen sont formidables. Mais c'est paresseux. Et en effet, alors on rit bien sûr au début notamment, et puis ça lambine. Il y a des moments aussi où on se.
Une fois ils sont collés, on en a un peu marre, quoi.
Ben oui, il y a un côté quand même. Il y a la dramaturgie, c'est pas ça, quoi. Hein, ça va pas. Alors ils mettent des trucs qui ont l'air de les amuser eux, mais qui deviennent vite lassants pour le spectateur. Alors évidemment, on a plus de la sympathie. En même temps, je comprends bien parce qu'on a de la sympathie pour ça. Mais en effet, ça, c'est très très paresseux, c'est très insuffisant, et je trouve ça très décevant.
Michel.
Oui, moi j'ai aimé dès le début Carven et Delépine, ces Grolandais, leur côté libertaire, humoristique, etc. Mais le problème dans ce film, c'est qu'ils sont, d'habitude, ils sont du côté des perdants, ils sont du côté des opprimés, ils sont du côté de la France qui souffre. C'est ça qui faisait le sel de leur cinéma. Alors que là, évidemment, la première partie est la meilleure, parce que la première partie renoue avec ça, il y a certains aspects. Mais quand ça devient très démonstratif dans la deuxième partie, par exemple, le mouvement féministe, la démonstration devient très lourde.
Oui, et puis presque gênante de caricature, je trouve, pour le
absolument,
coup.
Absolument, et là, je trouve qu'on perd absolument le charme. Ici, ils sont pris dans la démonstration. C'est la première fois que je les vois avoir une thèse de démonstration, et ça ne passe pas. Ça s'englue.
Si ah oui, c'est le cas de le dire, oui.
Ça s'englue, absolument.
C'est Xavier.
Ils l'ont fait vite et sans doute trop pour pouvoir sortir avant, effectivement, les élections présidentielles.
Mais comme dit Jean-Marc, c'est pas un film d'entre-deux-tours, pour le coup.
Non, ça, c'est le moins que l'on puisse dire.
Très, très loin du marasme qu'on est en train de vivre.
Après, moi, je serais toujours, de toute façon, orphelin des tout premiers films de Carven et Lépine à Altra Vida, qui, en plus, avaient une idée de mise en scène, une envie de mise en scène, qui était quand même indéniable. Ils ont trouvé un filon dans lequel ils excellent. Ça, impossible de leur retirer de toute façon, qui est le filon, comme l'a très bien dit Jean-Marc Grolland, c'est-à-dire effectivement de la grosse farce. Voilà, on colle un candidat de droite contre un candidat de gauche dans une situation. J'ai beaucoup aimé tes précautions de pucelle tout à l'heure, effectivement.
Bah, c'est moi que tu.
Oui, absolument. Pas, tu semblais tourner autour du pot d'abord, c'est sur la
vie. C'est moi.
Bon, on a l'impression effectivement que le candidat de droite sodomise le candidat de gauche. On n'est pas loin d'une certaine réalité, et on verra peut-être d'ailleurs jusqu'où elle va. Il y a quand même des trouvailles régulières
vraiment,
dans le dialogue.
C'était très bon ce soir.
Jonathan Cohen qui se présente comme un candidat de centre extrême droite, ça me fait beaucoup rire. Enfin voilà, il y a une manière quand même constamment de trouver un bon mot. Les call girls, ça c'est très très drôle. India Air est une comédienne absolument.
Bon, le meilleur c'est le FMI quand même pour le bar.
Ah mais c'est le FMI. Enfin voilà, il y a des idées. Évidemment, le film souffre de la comparaison, et Jean-Marc a très bien dit, du film de Guy Roddy, parce que là il y a effectivement une volonté politique qu'ils perdent au fur et à mesure du film. Et le problème c'est qu'en plus le film ne sait pas se terminer. Il y a une fin, puis une autre fin, puis une autre fin. On a l'impression que c'était comme les affiches électorales, tout le monde colle une affiche sur la gueule de l'autre, quoi. Mais en même temps, moi j'ai la reconnaissance du ventre, et ils m'ont fait rire, et ils continuent de me faire rire. Alors effectivement, celui-ci est un petit peu bâclé, mais il a un mauvais esprit auquel je suis assez sensible.
En même temps, de Gustave Carverne et Benoît Delépine. Vortex, le nouveau film 4 ans après Climax, de Gaspard Noé, le réalisateur d'Irréversible, un film long de 2h20 qui s'ouvre par le générique de fin, manière de nous signifier qu'on va assister à une longue fin de vie, celle d'un couple âgé formé de Dario Argento et Françoise Lebrun, lui ancien critique de cinéma, elle ancienne psychiatre en proie à Alzheimer, les deux se partageant l'écran qui est coupé en deux. Ils ont un fils toxico joué par Alex Lutz qui les rejoint dans leur appartement Capharnaüm. Gaspard Noé dédie son film quasi documentaire parfois, je cite, à tous ceux dont le cerveau se décomposera avant le cœur. Alors on pense évidemment, j'ai pensé beaucoup à Amour de Haneke avec Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva. En tout cas, c'est pas gai, mais c'est en tout cas d'une sobriété à laquelle Gaspard Noé ne nous avait encore jamais habitués, ce qui était aussi une de mes surprises. Xavier.
Eh bien, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je vais aller consulter en sortant de l'émission. Je crois que c'est la première fois que j'aime bien un film de Gaspard Noé, qui est un cinéaste que je n'aime pas du tout. Tu avais inscrit il n'y a pas si longtemps, en temps de pandémie, confinement irréversible, qui continue à avoir sur moi un effet d'une toxicité dont je ne reviens jamais. Là, au début, je me suis dit, bon, allez, ça va, c'est du Gaspard Noé, il nous refait l'éthique habituelle, le générique de fin pour commencer, la chanson pratiquement in extenso de Françoise Hardy, mon ami Larose, sur le flétrissement, sur le fait qu'effectivement, nous naissons le matin, nous mourons le soir, effectivement, avec notre peau, comme ça, bon, je me dis, ah, ok, c'est bien lourd. Ensuite, on a le réveil de Françoise Lebrun et on a trois dédales dans lesquels elle se perd pour bien montrer effectivement que le personnage est perdu dans son esprit puisqu'il a celui de son appartement, celui de la quincaillerie et ensuite celui de la supérette. Je lui dis bon ça va, c'est du Gaspard Noé, il appuie, il insiste, le split screen pour bien montrer qu'effectivement ce couple-là ne peut plus se retrouver puisque les maladies...
Et que c'était un couple d'intellectuels.
Voilà. Et tu l'as aimé.
C'est fou. Peu à peu, oui, ben oui ben je raconte le chemin par lequel je suis passé, peu à peu cet écran carré... La claustration, effectivement, le côté carcéral, on en reverra un tout à l'heure.
En deux.
Voilà, mais ça fait deux écrans carrés. C'est un espace pour les comédiens qui l'accompagnent remarquablement, mais vraiment, c'est un faux plan séquence, c'est un faux temps réel. Et puis, il y a le personnage d'Alex Lutz aussi qui est extrêmement bien écrit. Et subitement, les 2h20 se justifient constamment et complètement dans la manière dont ils ne précipitent pas les choses. On regarde ce qu'on n'a pas envie de regarder, évidemment. C'est-à-dire, non seulement un couple.
Moi, j'aurais un peu coupé quand même, mais bon.
Moi, j'étais au cinéma, donc j'ai pas pu demander qui que ce soit de couper. Et puis, Françoise Lebrun, c'est la maman et la putain, bien sûr, c'est une immense comédienne. Ce qu'elle fait...
Qui va ressortir bientôt, je le signale.
Ouais, absolument.
Au mois de mai.
Et qui, dans la solitude d'Dario Argento, s'en sort un tout petit peu moins bien. Mais dans cette manière... C'est-à-dire que le plan est à elle. Il ne peut rien faire d'autre que de lui donner la valeur de cadre et de lui demander de faire ce qu'elle fait. C'est-à-dire elle est hébétée, elle est perdue. C'est-à-dire qu'on voit non seulement une comédienne qu'on adore, qui est en train de jouer la fin de sa vie, et on voit effectivement toutes les fins de vie auxquelles nous avons assisté, et le film devient une bourrasque émotionnelle à laquelle je ne m'attendais pas venant de Gaspard Noé.
Michel.
Alors, moi, je ne suis pas tout à fait comme Xavier vis-à-vis de Gaspard Noé, c'est-à-dire j'avais trouvé impressionnant son premier film, Seul contre tous, et son court-métrage qui précédait. Je trouvais que c'était la naissance d'un vrai cinéaste. Et ensuite, j'ai vraiment rejeté Enter the Void, j'ai rejeté Irréversible, des provocations, un goût de l'excès, tape à l'œil, etc., insupportable. Et ce film, je l'ai trouvé passionnant et en même temps, c'est le contraire du film de Kerven et Delépine, c'est-à-dire je trouve que la première partie...
C'est bien de le dire, Michel.
Non, je parle de la construction du film.
J'y pensais un moment, moi.
Je trouve que la première partie est interminable. La première partie, on dirait de l'underground américain new-yorkais des années 60, un peu Andy Warhol, c'est-à-dire des couloirs, des gens qui se traînent. On s'ennuie beaucoup. Arrive Alex Lutz, le fils drogué, etc., et qui est impuissant devant le délabrement de ses parents. Et là, le film acquiert une force exceptionnelle, une émotion formidable. Donc il fait 2h20, comme si Gaspard Noé se disait... Je ne veux pas avoir un vrai succès, ça serait vraiment me trahir. Il faut que je fasse un film qui va ennuyer d'abord, et ensuite je vais rattraper.
Ah, il ennuie jamais.
Et je trouve que c'est dommage, parce que le film ferait 2h20, 2h20.
Les autres films de...
Le film ferait 2h au lieu de 2h20. C'était un film très prenant, et vraiment, en tout cas, un coup de chapeau, parce que c'est vraiment un film très fort.
Jean-Marc.
J'ai vraiment peu de choses à ajouter parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Moi aussi, j'étais extrêmement touché par le film alors que je m'y attendais pas du tout. Parce que c'est la première fois que je suis ému par ce que raconte un film de Gaspard Noé. Il y a un effet de courant alternatif dans le film. Le dispositif est extrêmement rigide et par moments, on ne voit que le dispositif. On se dit qu'on assiste un peu à un exercice d'étudiant dans une école de cinéma. Et par moments, le dispositif produit des choses bouleversantes. Notamment, je sais pas, j'ai une image par exemple où tout à coup, Françoise Lebrun, qui est dans la moitié d'un cadre, balance sa tête en arrière et son visage se démultiplie et se fragmente en deux comme dans une toile de Picasso. C'est sublime. Et donc il y a comme ça tout à coup des moments où le dispositif produit quelque chose et j'ai l'impression que c'est d'autant plus fort qu'il y a aussi des moments où il est un peu comme un organigramme plat. Et cet effet comme ça d'accélération et puis de retombée, je trouve que ça marche assez bien dans le film. Voilà.
Sophie.
Oui, c'était un film, moi aussi, je déteste Gaspard Noé et je trouve ce film magnifique. Je l'ai trouvé vraiment très beau. Je trouve que cette idée du split screen, donc de l'écran divisé, est une idée magnifique parce qu'effectivement, ça fracture l'espace commun. Mais au-delà de ça, quand les mains se rejoignent, c'est comme si tout à coup, elle défiait le cadre. C'est assez bouleversant. Il a une façon de filmer ces deux vieillards dans des toutes petites choses quotidiennes, même si lui est brillant et qu'elle est perd la tête. Mais c'est poignant et c'est passionnant, je trouve, de les voir évoluer comme ça, parce que tout à coup, ils sont au cœur de l'humanité. Il y a une sorte de... Pas seulement parce qu'ils incarnent la condition humaine dans ce qu'elle a de plus triste et bref, mais parce que ils incarnent ce qu'il y a de plus beau peut-être dans l'humanité, qui est une sorte de douceur dans le consentement. Même elle, qui perd la tête, elle a une douceur dans l'acceptation du sort commun que je trouve absolument bouleversante. Et ce qui est amusant, c'est que Haneke, qui a fait donc Amour, et il dit toujours qu'il faut sortir le plus vite possible d'une scène, et Gaspard Noé semble lui répondre, ah ben non, il faut sortir le plus tard possible. Et pour une fois, ça marche. C'est-à-dire qu'effectivement, il épuise jusqu'à la disparition complète, jusqu'à l'effacement. Et c'est pas très, très folichon, mais c'est fort, quoi. C'est très fort.
Vortex, donc, de Gaspard Noé. À l'ombre des filles, deuxième long métrage d'Étienne Comard après Django, avec toujours et décidément Alex Lutz. Là, c'est très différent. Il incarne un contre-ténor en deuil et en crise, puisqu'il vient de perdre sa mère et qu'il n'a plus le goût de chanter. Et il accepte d'animer un atelier de chant dans une prison pour femmes, à une demi-douzaine d'entre elles, dont Agnès Jaoui, Avzia Herzi, Verle Batens, l'interprète de Handel et de Vivaldi, fait chanter l'hymne de Xavier, Où sont les femmes, de Patrick Juvet, et India Song de Carlos D'Alessio. Alors, je vous le dis, franchement, on n'apprend pas grand-chose sur ces détenus. C'est plutôt l'évolution du personnage d'Alex Lutz au contact de ces femmes que filme Étienne Comard. Et impossible de ne pas penser à un triomphe d'Emmanuel Coursol, qui était sorti l'an passé, avec Oukad Merad, comédien en galère, animé en prison un atelier théâtre avec des détenus hommes. Sophie.
Moi, j'ai trouvé ce film assez intéressant. J'ai, en effet, au début, je me suis dit, c'est un triomphe version féministe. Et puis, très, très vite, je me suis aperçue qu'en fait, ce film parlait finalement de tout autre chose, parce que c'est un film sur la dépression, c'est un film éteint, sur un type qui est éteint, qui va pas bien, qui a perdu sa mère.
Mais le vrai personnage, c'est Alex Lutz dans le film, c'est pas des détenus.
Oui, mais sauf qu'il
n'aime plus savoir.
D'accord. C'est important pour...
Attends, je peux juste développer un petit peu, parce que justement, en face, il a des femmes qui ne vont pas très bien non plus, et qui, elles, lui, se sentent coupables, et elles sont coupables. Et le seul lien qui est entre les deux, c'est en effet la voix, c'est en effet le chant. Mais là, le chant, il a pas du tout la même vertu que dans Un Triomphe. Le chant n'est pas là pour qu'elle soit révélée ou qu'elle soit délivrée ou qu'elle soit... C'est une vertu beaucoup plus modeste. Il s'agit juste d'aller un tout petit peu mieux, c'est-à-dire d'accepter sa charge. Il y a une référence implicite à Sisyphe dans le film. Au début du film, il y a une colline de gravats comme ça sur laquelle on n'a pas pris.
Colline noire, très noire. Oui.
Et j'ai pensé à Sisyphe immédiatement parce que le film, oui, au fond, dans son entêtement à parler de la dépression et de ce petit pas qu'il faut faire pour essayer d'accepter sa charge et de consentir à sa peine, que ce soit le chagrin ou que ce soit la peine carcérale, il est fort, c'est Sisyphe heureux, enfin c'est Camus, hein, il faut imaginer Sisyphe heureux, et il y a un peu de ça, quoi. Ben voilà, on le chant, ça sert juste à aller un peu mieux et à accepter ce qu'on est.
Cette scène de ces gravats qui n'arrivent pas
Oui, c'est pour ça que c'est très fort au début
à la fin du film.
Et je trouve que du coup, le film donne quelque chose d'assez intéressant là-dessus.
Michel.
Oui, j'ai aimé ce film, effectivement, qui ne tombe pas dans les clichés. Au début, les protagonistes chantent seuls, ou chantent faux, ou ne chantent pas.
Comme Avzia Herzi.
Voilà, et petit à petit, elles commencent à chanter. Je trouve que c'est dû beaucoup aux comédiennes, qui sont absolument formidables, et de recréer ce monde. Et puis ce chanteur qui n'aime plus sa voix, c'est aussi un thème assez intéressant.
Ah oui, c'est une voix de haute contre, évidemment.
Il y a naturel.
Ça prend tout son sens.
Un réalisme très, très convaincant dans le film. Quelque chose de très humain et de très attachant.
Jean-Marc.
Oui, le film, bénéficie vraiment énormément de la comparaison avec Un Triomphe, qui était vraiment un film, à mon sens, horrible. Le film est vraiment étonnamment bien. Enfin, j'ai trouvé ça assez remarquable. Je ne m'y attendais pas. Et notamment parce que ce n'est pas du tout feel good. De ce point de vue, c'est le contraire d'Un Triomphe. C'est très noir. Et il n'y a pas du tout cette idée que de rédemption dans l'art et ce côté scout où tout à coup on va faire un truc
révélation.
Et voilà. Il y a pas de transcendance et ça c'est très beau, mais par contre il y a du travail et le film est vraiment très très précis sur la manière dont on construit une chorale et c'est passionnant de voir tous les exercices vocaux. Il y a quelque chose de très documenté sur comment on réussit à créer une harmonie entre plusieurs voix qui est vraiment passionnant à observer. Et là où je suis pas d'accord avec ce que tu disais, Jérôme, c'est que même si le film raconte très très peu sur leur passé des tenues, malgré tout elles existent toutes très fortement.
Mais ce que je disais c'est qu'on ne voit pas leurs conditions de détention, enfin, on n'arrive même pas à les imaginer, ouais. D'une part, et on sait encore moins d'où elles viennent.
Voilà, et pourtant, malgré tout, elles sont toutes extrêmement singularisées, et je trouve qu'elles existent dans le présent, même si on ne sait pas très bien ce qui les a amenées là. Je trouve que, et d'ailleurs, on entre au départ avec Alex Lutz et on ressort avec lui, mais à un moment donné dans le film, on va quand même rentrer dans les cellules, et je trouve que le film les fait vraiment exister. Aussi fortement pour moi que Alex Lutz. Et par ailleurs, je voudrais dire que Alex Lutz, c'est vraiment un excellent comédien. C'est vraiment un très très bon acteur. Là, on le voit dans deux films cette semaine.
Et vous le voyez aussi au théâtre, puisqu'il est au théâtre du Rond-Point. Et c'est vrai qu'il est assez incroyable. Xavier.
Mais mes petits camarades ont tout dit et j'abonde dans leur sens. Je suis entièrement d'accord. C'est une bonne surprise. C'est la rencontre, effectivement, entre deux dépressions, celle de la prison, celle de l'incarcération, et puis celle de cette incarcération mentale qui est la tristesse et la douleur de cet homme, renchéri par un cadre carré, là aussi. Il y a quand même un sens du montage que je trouve extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'il sait, lui, très bien comment et quand faire finir une scène. Il y a ce qu'il faut d'ellipse, il y a ce qu'il faut de sécheresse à travers le montage pour éviter justement le côté guimauve, larmoyant du feel-good movie, ou en tout cas du film. Il les regarde de manière très juste, je trouve que les comédiennes sont formidables, et de temps en temps, il y a une toute petite respiration qui est amenée par cette comédienne géniale qui est Michèle Moretti, qui est la logeuse d'Alex Lutz, avec laquelle qu'il rencontre la nuit, semble-t-il, puisque soit il oublie ses clés.
Elle est un peu perdue quand même.
Mais oui, mais elle est magnifique parce qu'elle aussi, elle a un deuil. Elle aussi, elle est perdue dans cette maison trop grande qu'elle loue effectivement à ses
jeunes. C'est vraiment une comédienne géniale, Michèle Moretti, c'est un bonheur.
Sublimissime, sublimissime. Et c'est toujours la nuit, il lui pique un yaourt et elle entame un dialogue avec lui. Vous avez envie de savoir ce qu'elles ont fait, hein, voilà. Et je trouve que, voilà, il y a un rythme dans ce film-là, il y a une manière, les petites digressions sont extrêmement bien travaillées, le film est bouleversant et toutes les comédiennes sont géniales.
Et puis c'est un film modeste.
Oui,
c'est précis.
J'étais un peu triste quand j'ai vu cette semaine que la presse était très partagée, certains étaient tout à fait indifférents, alors qu'il mérite, je trouve, d'être soutenu à l'ombre des filles d'Étienne Comard. Et on termine avec Inexorable du Belge Fabrice Duvels, un film où Benoît Poelvoorde, alias Marcel Belmer, incarne un écrivain qui a connu le succès avec son premier roman et qui est depuis en panne d'inspiration. Alors il emménage avec sa femme, Jeanne Drahis et Mélanie Doutet, dans la grande maison, c'est presque un château, hein, hérité de son père éditeur, qui vient de mourir. C'est alors que la babysitter, une certaine Gloria, Alba Gaia Bellucci jouant le rôle, va bouleverser, le mot est faible, hein. Là surtout Michel, on ne raconte pas la suite petite famille. Un cauchemar filmé en Super 16 et escorté toujours par Vivaldi, décidément, le chanteur à la mode de ce soir. Jean-Marc, pourquoi tu répondais ça?
J'ai très peu de choses à dire sur ce film, sinon que je l'ai trouvé d'une faiblesse absolue. En le voyant, j'avais vraiment un sentiment de très grande solitude. À la fois une solitude réelle, parce que je l'ai vu dans une salle où j'étais quasiment le seul, on était peut-être trois, et moi j'avais pas vraiment choisi d'être là. J'y étais parce que tu me l'avais demandé, et je souffrais. Je me disais que le film aussi était extrêmement seul.
Tu exagères pas un peu? Non.
Ah si, je t'assure, vraiment, je souffrais, oui. Mais le film aussi est en souffrance et aussi en très grande solitude. C'est comme si c'était un film de genre dans une cinématographie francophone où le genre n'existait pas. C'est-à-dire que des films comme ça aux États-Unis, comme Jeune fille cherche appartement, Misery, il en existe 15 par an. Il y a tout un petit artisanat qui sait produire ce genre de film. Il y a un public qui veut avoir ce genre de film. Alors que là, rien n'existe. Ni les gens qui savent le faire, ni les gens qui ont envie de voir ça. Il y a que le film qui est terriblement seul et dans un état de faiblesse et de désarmement qui fait presque peine à voir.
Xavier.
Me voilà à la rescousse de Fabrice de Velfs. Je crois que j'aurais tout vu et j'aurais tout entendu de ma part, en tout cas, ce soir dans cette émission. Alors oui, on est d'accord, c'est un paradigme, effectivement, mille fois vu, mille fois écrit et mille fois essoré par le cinéma américain. Alors oui, c'est un château, tu peux le dire, Jérôme.
Oui, c'est quand
trois étages, 30 000 mètres carrés et 500 hectares. Ça s'appelle un château. Tu remplaceras pas Stéphane Plaza à la télévision. Je pense que t'as pas le sens de l'estimation du volume. Et en même temps, c'est un exercice de style, de mise en scène. J'aime pas beaucoup le cinéma de Fabrice de Velfs, il le sait de toute façon. Et je trouve que pour une fois, ça
fonctionne. Du Velfs.
Ça fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire qu'il y a un sens du découpage, il y a une manière d'utiliser les espaces, l'obscurité. Il y a même des MacGuffins, c'est-à-dire des promesses de séquences qui n'arrivent pas, parce qu'on le répète au début du film.
Jean-Marc te regarde comme un alien, comme si tu étais un alien.
Regarde, de toute façon. On nous dit, il prend pas l'escalier principal, il pourrait s'effondrer. Donc, la chute de la maison Huchère, on dit chouette, il y a une petite référence comme ça. Est-ce que, effectivement, il y aura une... Il n'a pas assez d'argent, évidemment, pour détruire un château et un escalier du 16e siècle. Mais il y a en même temps toujours une manière comme ça de différer les choses. Alors, le film n'est pas sans erreur. Au début, ils sont dans la voiture, on a l'impression qu'ils traversent une forêt touffue pour arriver à la maison, comme c'est le château, donc comme s'il était perdu au milieu de, comme ça, d'un espace. Et puis en même temps, 10 minutes après, la petite jeune fille arrive, le bus la dépose et on voit le château à 10 mètres de la route.
Elle est pas mal d'ailleurs.
Elle est très bien. Donc on se dit, bon, il aurait peut-être fallu qu'il verrouille 2-3 choses. Dans le casting, ce que je trouverais, c'est Mélanie Douté, que je trouve de plus en plus intéressante, qui est vraiment une comédienne, qui a une force. Ah si, je te prends, mais ce qu'elle fait est très intéressant parce qu'elle a une espèce de jeu très simple, très au premier degré, très concret par rapport aux affres du mari qui est joué par Benoît Boulevard et évidemment la vicissitude de cette jeune fille qui arrive et dont on comprend très vite qu'effectivement elle leur veut du mal. Et je trouve qu'elle traverse...
On ne sait pas.
Oh, quand même.
On ne sait pas du tout.
Tu es d'une naïveté.
Attends, pucelle, sinon... naïveté, ça va maintenant. Hein.
Sinon,
ça va.
Le film n'existe pas. Non mais je t'envie, hein. Je veux dire à ton âge.
Je veux pas que tu racontes
toutes ces vertus-là. Moi, je trouve ça magnifique, quoi.
Je veux pas que tu racontes tout aux auditeurs, c'est tout.
Non mais attends, c'est un film de genre. Jérôme.
En plus, elle est démasquée. Elle est démasquée
ça, ça
très
fait
vite.
L'effet
hein.
du chapeau, vrai, du lapin vrai. Dans le chapeau, toi. T'as été surpris. Ah non, je ne l'avais pas vu venir. Bon, on le voit un peu venir. Mais en termes de facture et de mise en scène, je trouve ça vraiment intéressant.
Sophie.
Ah non, moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur le film. Je l'aime pas du tout. Je trouve que c'est une coque vide. Et c'est dommage parce que le début, moi, je l'ai plutôt aimé. J'ai trouvé que cette ouverture dans ces hectares de pins de chênes, enfin d'arbres, où il roule avec sa... oui, parce que je ne sais pas exactement si c'est des pins ou des chênes.
Enfin, pas les maisons de France.
Tout un peu penser à l'ouverture de Shining. Mais...
Oui, mais
ce que j'ai aimé, c'est pas tant ça que la petite fille qui dit... Tout ça, c'est à nous, papa. Et immédiatement, l'inquiétude tombe sur le visage de Poulvord, du père, qui est donc l'écrivain. Et j'ai trouvé que par toujours cette petite fille...
L'écrivain.
Oui, bon, bref. Non, mais j'essaie de défendre un tout petit peu le film avant de le démolir, parce que franchement, j'ai trouvé qu'il était nul, le film. Donc, mais d'autant plus mauvais que l'ouverture promettait quelque chose d'un peu brillant. Bon, il y a une musique un peu solennelle comme ça, mais en effet, la mise en scène est plutôt élégante, etc. Et puis, le film se délite à partir du moment où cette jeune fille, en effet, apparaît, ou dont on comprend immédiatement qu'elle ne leur veut pas du bien et qu'elle va semer la discorde la plus totale. Et d'ailleurs, immédiatement, elle ment, et nous, spectateurs, réalisateur, on sait qu'elle a menti, donc on sait très bien ce qu'il en est. Les personnages ne sont plus, ils perdent leurs contradictions, ils perdent leur le peu d'autonomie qu'ils avaient, ils la perdent complètement. Ils deviennent des faire-valoir de l'intrigue et des faire-valoir du genre, mais enfin le genre, ce genre comme ça n'a aucun intérêt s'il n'y a pas derrière quelque chose. Et c'est pour ça que je parle d'une coque vide, parce que il y avait des thèmes qui traversaient le film, l'adolescence, évidemment le sentiment d'imposture. On n'a pas besoin d'être écrivain pour avoir un sentiment d'imposture. Il y avait le ressentiment, des choses comme ça qui auraient pu, la conjugalité, l'adolescence. Bon, bref, il y avait des choses. Mais tous ces sujets-là, il les escamote pour justement servir sa mécanique, sa sacro-sainte mécanique, sa forme. Et il n'y a pas de fond.
Michel.
Oui, il y a du savoir-faire, mais à quoi ça sert de faire un film de genre, ce qui ne renouvelle strictement rien? Je veux dire, c'est vrai que quand Shining est arrivé, le film a été très, très rejeté.
Il peut peut-être uniquement, et peut-être, moi, je vais pas le défendre, mais il a envie de faire plaisir à des spectatrices.
Alors, je vais rien dévoiler, mais la conclusion du film est un tel pandémonium abominable.
Ah, ça y est. Ah, je m'attendais à ce qu'il raconte la conclusion.
Je ne parle de rien. Je dis simplement que c'est un pandémonium absolument atrocement filmé, lourdingue, etc., qui disqualifie le film. Mais le reste du film n'est pas mauvais. Simplement, il n'apporte strictement rien. Il n'y a aucun renouvellement. Il y a une sorte de je trouve, d'une médiocrité avec un certain savoir-faire.
Je l'adore.
Je ne dirais pas que c'est nul.
Michel ne change jamais.
Vous avez compris que c'est pas un film qui a fait la une de positif, hein, ce mois-ci. Est-ce qu'il y a des réactions sur Inexorable? Oui, il y a des réactions sur Inexorable. La parole, merci, le micro vient vers vous.
Moi, je suis désolé, j'ai beaucoup aimé. Et moi, j'ai marché à fond. Et même si la fin est un petit peu aussi bizarroïde, j'ai bien aimé, beaucoup aimé. Ça change les idées. On n'est pas dans la politique. On n'est pas dans le polar où les flics sont véreux et sont plus pires que les voyous. Là, on est vraiment dans un thriller social. Et Boulevard est très bien aussi. Quand, dans les films sérieux, il y est rarement, mais il est toujours très bien. Et Emilia Di Douté et tout, c'est le même. Ils sont tous très bien, voilà.
Eh bien, merci et bravo d'avoir affronté la tribune des critiques et d'avoir défendu Inexorable du Belge Fabrice Duvels. Eh bien, on a tout à fait le temps, et même, oui, de faire un ou même plusieurs conseils. Donc, on va en profiter. Et on va commencer avec Sophie.
Alors je voudrais recommander, une fois n'est pas coutume, c'est un film qui ressort à Bordeaux, à l'Utopia de Bordeaux. Et qui
que est à déjà... Bordeaux?
Oui, alors il ressort dans d'autres villes de province, mais il était, je crois, déjà ressorti à Paris, c'est un film de 81. Et là, il sort assez longtemps à Bordeaux, jusqu'au 8 mai, et c'est un film absolument magnifique qui s'appelle « L'élu ». De Jérémy Kagan, qui est adapté du roman de Chaim Potok, qui a été un best-seller. C'est un film de 81, hein, et qui est d'ailleurs en 10-18, le livre. Et c'est vraiment un film qui est magnifique. Ça se passe en 44 à New York. C'est l'histoire d'une amitié entre deux jeunes gens de la communauté juive. L'une des familles n'est pas religieuse, l'autre est au contraire très religieuse et très rigoriste. Ils n'ont rien en commun, ces deux jeunes gens, et ils vont sympathiser et s'entraider, etc. C'est un film sur la transmission, sur la religion, sur avant la création de Palestine, c'est la fin de la guerre, c'est 44, sur l'amitié entre ces deux jeunes gens, mais c'est bouleversant à chaque plan, c'est dense, c'est riche, c'est vraiment un film que je recommande.
Mais Sophie, comment on peut faire si on n'est pas bordelais? Non, vraiment, c'est une question sérieuse. Bon,
il tourne, ce film.
Il va continuer à tourner.
Pour une fois que je parle de la province, pour une fois, parce que c'est vrai que d'habitude, on dit Cinémathèque de Paris.
Bien sûr, non, mais tu as raison.
Comment ils font? Eh ben, ils font pas. Eh bien, là, pour une fois, les Bordelais vont pouvoir faire jusqu'au 8 mai. Et les Parisiens, je pense je crois qu'il est déjà ressorti à Paris et qu'il va ressortir.
Bon, le titre, tu le rappelles?
L'élu de Jérémy Kagan.
Le conseil de Michel.
Deux conseils. D'abord, un des plus beaux films de ce début d'année, c'est le film de Bouly Lanvers, L'ombre d'un mensonge, qui est une histoire qui rappelle la palme d'or de Colpi, une aussi longue absence, sur l'amnésie, personnage joué magnifiquement par Bouly Lanvers, qui est aimé d'une femme d'un certain âge, et qui a une passion pour lui, et qui va construire un récit qui n'existe pas, profitant de l'amnésie de cet homme. C'est un film extrêmement émouvant, très, très beau sur les sentiments. Donc malheureusement, il ne se joue plus que dans une salle à Paris. Et il a une très bonne presse, mais le film a disparu. Et alors d'autre part, c'est le centenaire de la naissance de Pasolini. Et il y a un éditeur italien, Gremese, qui publie beaucoup de livres en français de grande qualité. Et il y a un énorme livre qui s'appelle « Tout sur Pasolini », 520 pages grand format, où vous saurez tout sur tous les films, mais aussi les rapports de Pasolini avec Sartre, avec la Callas, avec Silvana Mangano, avec Fellini, avec Toto. C'est riche, 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 riche de 300 articles. Donc je recommande ce livre donc chez Gremese, 530 pages.
Mon conseil, c'est un film qui s'appelle « Il y eut un matin » de l'Israélien Eran Kolirin, le réalisateur de « La visite de la fanfare ». Samy, qui vit à Jérusalem, revient dans le village arabe où il est né pour le mariage de son frère. Mais pendant la nuit, le village est encerclé par l'armée israélienne, sans réseau téléphonique, coupé du monde extérieur, et Samy ne peut plus repartir. Et je trouve que c'est à la fois évidemment dramatique et en même temps totalement ubuesque,
ouais.
Très désenchanté aussi. Hein. La paix n'est pas pour demain, mais c'est d'une intelligence assez étonnante, très bien joué. Et il y eut un matin de Eran Kolirin. Le conseil de Jean-Marc.
Alors c'est un roman graphique qui n'est pas un domaine que je connais très bien, mais j'ai lu celui-là parce qu'il parle de l'actrice Musidora. Donc ça s'appelle Musidora, elle était une fois au cinéma, de Arnaud Delalande et Nicolas Pusna chez Robinson. Et donc c'est... en bande dessinée, le récit de cette actrice qui était l'égérie de Louis Feuillade, qui joue le rôle de la chef des malfaiteurs dans Les Vampires. Olivier Assayas avait consacré un film autour de Musidora qui s'appelait Irma Vep, et il en fait une série qu'on découvrira bientôt sur HBO et avant au Festival de Cannes, sur cette figure qui est un peu la première star féminine du cinéma français. Ce qui est très beau dans le roman graphique, c'est qu'on voit aussi toute la scène artistique d'époque. Elle a très, très bien connu Colette, elle a été la maîtresse de Pierre Louis, elle a croisé Paul Valéry. Et donc le film restitue à la fois ce qu'était la Gaumont comme usine à rêve, première usine à rêve à l'époque, et aussi la scène artistique de la Belle Époque.
Le conseil de Xavier.
Un premier film signé Elie Daguerre qui s'appelle Face à la mer. C'est un premier film libanais et c'est intéressant de voir que le Liban, malgré tout ce qu'il endure actuellement de tragédies économiques et physiques, eh bien, arrive à produire un jeune cinéma. On l'avait vu Sous le ciel d'Alice l'année dernière, qui était absolument magnifique. Voilà. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui rentre. Elle revient de Paris, elle rentre dans sa famille et elle semble totalement, mais en dehors de ce jeu des retrouvailles, des conventions qu'il va falloir rejouer. Elle est mutique, elle s'en fout un tout petit peu, elle quitte la table avant la fin des repas, elle n'en a rien à faire de revoir ses oncles, ses tantes. Elle va croiser un ancien amant, ça va lui redonner un petit peu de pef, mais pas vraiment. Et le film est remarquablement mis en scène dans sa manière d'accompagner l'inertie, entre guillemets, de ce personnage, parce que subitement, cette inertie, elle est métaphorique de toute une société libanaise. Elle raconte le poids de cette société avec ses castes, avec ce pouvoir qui est en train de s'effriter. Et le film, sans jamais verser dans le didactique, l'explicatif, suit ce personnage et subitement l'écart entre le personnage et la réalité dans laquelle elle ne peut plus s'inscrire parle énormément du Liban d'aujourd'hui avec en même temps un vrai magnifique portrait de jeune fille, pas à la dérive, pas à la perdition, mais absente à elle-même. Et c'est un très très beau premier film.
Tu rappelles le titre ?
Face à la mer.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume. Franceinter.fr, merci beaucoup Sophie Avon, Michel Simon, Xavier Le Herpeur, Jean-Marc Lalanne pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam. Et ce soir au Théâtre de l'Alliance Française à la Technique, il y avait, et je les remercie, Marie Lepeintre, Tar Bouklifa, Tiffaine Hermelin, à la régie Jean-Yves Masson et à la réalisation, bien sûr, Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, c'est le jeudi 28 avril, à partir de 19h au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de littérature. Attention, dimanche prochain, en raison de la soirée électorale, le Masque sera diffusé exceptionnellement à midi sur France Inter, évidemment.